Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury. Bonjour Frédéric.
Bonjour Jean-Pierre.
Rédacteur en chef économie à Jeune Afrique, nous recevons Chérif Salif Sy. C'est vous notre grand invité. Bonjour Chérif Salif Sy.
Bonjour Jean-Pierre.
Chérif Salif Sy, vous êtes sénégalais, économiste. Vous avez 67 ans et la liste des postes que vous avez occupés est longue. Citons-en quelques-uns. De 2000 à fin 2003, vous avez été conseiller au cabinet du président de la République, à l'époque Abdoulaye Wade, avec rang de ministre de l'économie. De 2007 à 2009, on vous trouve aussi à la tête de l'Agence nationale du conseil agricole et rural. Vous avez enseigné à l'université Cheikh Anta'ar Diop de Dakar. Vous êtes également président fondateur de l'association Solidarité pour le Développement et membre du Forum du Tiers-Monde, un collectif d'intellectuels présidé par Samir Amin. Comment définir ce parcours, Chérif Salif Sy? Comment le définiriez-vous?
Eh bien, ce parcours est le reflet de ma jeunesse étudiantine et militante, en quelque sorte. C'est un parcours qu'on retrouve, mais assez particulier. Avoir été universitaire, intellectuel, enseignant et chercheur, haut fonctionnaire, je crois que c'est un profil qui est là, qui est comme ça, mais qui découle effectivement de ma vie militante et de ma vie étudiantine.
Alors, au cours de cette émission, nous parlerons bien sûr économie sénégalaise, économie africaine, à la lumière du ralentissement chinois et de la baisse du cours des matières premières. Nous parlerons migration et nous reviendrons sur le sommet Inde-Afrique. Chérif Salif Sy, avant toute chose, faisons un peu plus connaissance pour nos auditeurs. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez été appelé au cabinet d'Abdoulaye Wade en l'an 2000?
J'étais déjà au cabinet à la présidence de la République avec lui. J'étais conseiller technique numéro 1 lorsque lui était ministre d'État auprès du président de la République. Il m'avait appelé ayant lu certains de mes travaux, dont un que j'avais fait qui portait sur l'agriculture et l'emploi au Sénégal. Mais étant économiste, macroéconomiste, j'étais également, disons, aménagiste du territoire, en quelque sorte. Et le président de la République venait de lui confier ce qu'on appelait à l'époque les grands chantiers, le canal du Baol et la revue du territoire et voir ce qu'il fallait faire. Et c'est à cette époque que nous avons travaillé sur le développement d'un nouvel aéroport international pour Dakar, qui est devenu aujourd'hui l'AIDB. J'ai géré donc tous ces grands projets.
À la présidence de la République.
Autoroute, oui, la nouvelle autoroute, mais également tout ce qui se faisait sur le territoire, les bassins de rétention, les aménagements pour la jeunesse, la maison des jeunes, la maison de l'outil, et un certain nombre de choses.
Alors, cher Salif Sy, pourquoi ne pas avoir continué en politique? Vous auriez pu, ministre, conseiller, vous faire élire.
C'est ça la difficulté, c'est ce que souhaitent beaucoup de monde autour de moi, beaucoup d'amis, mais c'est très compliqué. J'étais conseiller technique, je n'appartenais à aucun parti politique et...
Pourtant, tout à l'heure, vous avez parlé de votre vie militante.
Absolument, je suis politique. On peut être un homme politique sans être dans un parti politique. C'était très compliqué. Et il y avait la contrainte aussi de la recherche scientifique qui demandait un recul et de l'objectivité. Je ne souhaitais pas que la position du parti l'emporte toujours sur moi. Je voulais garder cette liberté. Évidemment, jusqu'à présent, je reçois des pressions pour aller en politique, mais on verra.
Macky Sall vous a proposé des choses?
Non, pas du tout. Macky Sall, non. C'est un jeune frère, un ami. Non, je ne m'ai rien proposé pour le moment.
Question de Frédéric Maury de Jeune Afrique.
Alors quand on fait le choix justement d'être économiste, militant et de ne pas forcément justement faire de carrière politique, est-ce qu'on peut réellement avoir un impact dans la vie politique, dans la vie économique sénégalaise? Est-ce que donc vous avez un impact en tant qu'économiste et quel impact vous avez sur à la fois sur le débat et peut-être sur les décisions qui sont prises?
Mais absolument, on peut tout à fait avoir un impact très fort si on considère le développement des réseaux aujourd'hui. Si on considère les forums sociaux mondiaux et si on considère, compte tenu de notre position, des notes qu'on glisse par-ci, par-là, à un moment donné. Lorsque nos positions sont prises en charge par les politiques, c'est visible, nous nous en rendons compte immédiatement.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont prises en compte
Un exemple.
Un exemple, oui.
Certains sont pris en compte, par exemple, sur la mise en place de structures relativement autonomes pour veiller sur les politiques économiques et les politiques agricoles. Également, des structures de veille ou de surveillance qui seraient composées de, disons, de personnes venant de la société non politique, hein, pour regarder un peu les institutions, leur fonctionnement. Effectivement, ça se fait et ce n'est pas venu au début comme ça du pouvoir politique, mais c'est venu de la société non politique. Et je suis fortement impliqué dans ce genre d'initiative.
Chérif Salif, si, là, vous êtes un peu sur votre Aventin, en observateur, un peu acteur, mais comment diriez-vous que se porte l'économie sénégalaise aujourd'hui?
Et je voudrais dire d'abord que je suis un observateur engagé, si je puis m'exprimer ainsi. Toujours
oui,
actif.
Oui, alors, engagé parce que vous êtes dans des associations comme
absolument,
la Forum Tiers-Monde.
C'est... Absolument.
Mais ce sont des associations que vous qualifieriez comment de tiers-mondistes? Vous êtes un tiers-mondiste?
Tiers-mondiste, disons, tiers-mondiste réaliste, étant donné que c'est le monde aujourd'hui, il se fera entre nous tous, les peuples du Nord et les peuples du Sud. Je crois que c'est ça. Il n'y a aucun aspect de gauchisme ou d'infantilisme du tout. C'est des mouvements extrêmement responsables qui dialoguent avec les politiques, qui ne se limitent pas à critiquer l'action politique, mais qui formulent toujours, lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, en termes d'alternatives crédibles et réalisables.
Alors revenons à l'économie sénégalaise, revenons à cette question que je vous posais tout à l'heure, comment se porte-t-elle?
L'économie sénégalaise, comme la plupart des économies d'Afrique, est toujours dans une zone de turbulence. Et à mon avis, la principale difficulté nous vient des institutions financières et économiques internationales qui se trompent souvent. Elles sont nos institutions, je ne les rejette pas, mais elles se trompent souvent et elles persistent. Et il y a cette forte volonté de ne jamais perdre le contrôle sur nos pays. Ça entame sérieusement l'autonomie de décision de nos États. Et je crois que l'autonomie de décision est une question fondamentale dans ces pays. Ce qui fait qu'on est là depuis 1980, je pense que ça fait quand même trop que la politique économique et sociale se réduise à la gestion de la contrainte budgétaire. Le développement économique, c'est un pari. Le développement économique, ce n'est pas seulement serrer la ceinture. Je crois qu'il faut qu'on ose faire d'autres pas pour être véritablement sur une rampe de développement. Eux, ils diraient sur une rampe d'émergence.
Alors, quand vous parlez d'institutions, vous parlez, j'imagine, essentiellement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.
Ah oui, fondamentalement.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, que ces institutions, depuis les années 90 et depuis les plans d'ajustement structurel, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'elles ont changé dans leur approche économique et dans leur rapport aux États subsahariens?
Je ne crois pas que ces institutions aient changé. Au contraire, mais elles sont subtiles et animées de façon très intelligente. Elles ont cette capacité de capter des gens comme moi, qui sont dans la société non politique, qui formulent des revendications tout à fait en phase avec ce que veulent les peuples. Elles arrivent même à les recruter. Regardez, la plupart des femmes qui sont dans ces institutions viennent des sociétés civiles et de la société non politique. Elles sont intelligentes.
Vous pensez à qui?
Par exemple, prenez l'ancienne première ministre du Sénégal, Mariama Touré, elle était de la société civile, de parti politique, de l'opposition du Sénégal. Elle a travaillé dans ces institutions. Il y en a d'autres qui le font, qui arrivent à coopérer.
Mais selon vous, elles n'ont pas changé, c'est-à-dire elles sont plus habiles dans leur discours et dans leur peut-être dans les gens dont elles s'entourent, mais elles n'ont pas changé fondamentalement.
Elles n'ont pas changé fondamentalement. J'ai dit qu'il y a deux aspects qui les caractérisent et qui constituent, à mon avis, un frein à l'épanouissement de ces économies. La volonté de ne pas perdre le contrôle sur les États et la gestion par la contrainte budgétaire. Et il arrive effectivement qu'au cours d'une sortie ou d'un rapport, la Banque mondiale ait des positions exactement similaires à celles que développent des organisations de la société civile. Je crois que c'est ça. Mais ça aussi, il ne faut pas tomber dans ce bluff. Cela ne veut pas dire que fondamentalement, l'institution change. Non. Leur mission, ce n'est pas de faire le développement économique et social à la place des États.
Mais pour qu'on comprenne bien, très concrètement, en quoi l'absence d'autonomie que vous ciblez chez les pays africains est responsable de moindre développement, de problèmes économiques ?
L'absence d'autonomie de décision, comme je l'ai dit, d'abord, ça limite la marge de manœuvre par rapport à ce que j'appelle la mainmise nationale sur les décisions fondamentales qui engagent l'avenir de ces pays, c'est-à-dire la maîtrise du sol et du sous-sol, la possibilité de décider souverainement de ce qu'on produit, de décider sur quel marché on les met, de développer des banques de développement. La Banque mondiale et le Fonds ont horreur des banques de développement. Et pourtant, elles disent qu'elles veulent le développement du secteur privé. Aucune région du monde ne s'est industrialisée sans banque de développement.
Dans tous les pays émergents,
il y a des banques de développement.
Mais vous êtes d'accord pour reconnaître que l'expérience subsaharienne des banques de développement, puisqu'il y en a eu quand même dans le passé, a été un échec, et que c'est justement parce que ça a été un échec que les institutions internationales freinent la réapparition de ces banques de développement.
Mais ça a été un échec à cause des politiques menées. Lorsque, d'abord, il y avait, au moment où les politiques d'ajustement structurel sont arrivées, ça a quasiment coïncidé avec un moment de développement très important de la politique clientéliste des États.
Clientéliste
des États. Les banques étaient là pour donner de l'argent aux éléments du parti au pouvoir. Qu'ils soient journalistes, on les connaît, qu'ils soient reporters, qu'ils soient universitaires, c'est comme ça que ça a fonctionné. Ces banques n'alimentent plus le développement économique, particulièrement le développement industriel. Parce que justement, l'un des aspects de l'ajustement structurel, c'était le refus des objectifs sociaux et le refus de l'industrialisation de l'Afrique. C'est ça qui explique qu'au début des années 60-70, nous étions au même niveau. Alors que les pays asiatiques ont refusé systématiquement l'ajustement structurel et que des entités externes décident à leur place de la politique de développement, nous avons accepté tout ça. Ces pays ont poursuivi leur trajectoire. Nous avons accepté l'ajustement structurel et le résultat aujourd'hui, il est là. La banque a elle-même écrit dans un de ses rapports, lorsqu'il lui a fallu de guerre lasse admettre que l'ajustement était un échec, elle a écrit que à la fin de l'ajustement, vers les années 90, il y a 16 pays dans le monde dont le revenu réel était un niveau de vie qu'ils avaient rencontré au moment de l'indépendance. Je crois qu'il n'y a pas d'aveu plus important sur l'échec des politiques d'ajustement structurel qui ont freiné justement. Mais je reconnais parfaitement qu'il y avait un dérapage des banques de développement, notamment au Sénégal avec la BNDES et la Sodefitex.
Puisqu'on parle de la Banque mondiale, il y a eu il y a une dizaine de jours à peu près la publication du rapport Doing Business, qui est donc un rapport annuel sur le climat des affaires. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce rapport en tant que tel, et puis aussi votre point de vue sur le fait que le Sénégal ait été cité cette année comme les 10 pays les plus réformateurs à travers le monde, l'un des 10 pays les plus réformateurs à travers le monde en termes de climat des affaires.
C'est des indicateurs qu'il faut, je veux dire, c'est développé par Doing Business et d'autres rapports qu'il faut évidemment prendre en compte et bien analyser. Moi-même, j'ai écrit des textes qui ont énormément circulé. C'était un regard critique sur Doing Business. Dans ces documents, j'essayais de montrer ce qu'étaient véritablement ces rapports. D'abord, Doing Business, c'est une volonté de formater nos territoires pour que le capital étranger s'y déploie dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas autre chose.
C'est essentiellement pour les investisseurs étrangers et pas forcément pour les entrepreneurs locaux, c'est ça ?
Exactement, c'est pas pour les entrepreneurs locaux et le développement local. On formate, on considère qu'il faut des ressources externes, j'en suis d'accord. Sinon, si un pays pouvait réunir à lui tout seul les ressources qui lui sont nécessaires pour ses développements, les États-Unis ne seraient pas si endettés. pense que c'est une condition qu'aucun pays ne réunit. Il faut de l'argent extérieur, mais la mise à niveau doit correspondre à ce que veut véritablement, ce que souhaitent les populations d'un pays et ce qui pourrait être utile pour un territoire, pour son développement. Je crois que c'est ça.
Salifsi, est-ce que vous diriez que le plan Sénégal émergent a été fait sous la dictée de la Banque mondiale et du FMI, que ça n'est pas une manifestation d'indépendance et d'autonomie des autorités sénégalaises?
Le plan Doing Business, le plan Sénégal émergent, j'ai dit tout à l'heure que j'ai été à un moment donné haut fonctionnaire. Je sais, il m'arrive parfois de voir ce qui est écrit et de savoir tout de suite qui a écrit. On a éliminé l'expertise sénégalaise. La Banque mondiale, d'ailleurs, l'avoue à un moment donné, ces deux documents de base, la politique nationale de développement économique et social et les politiques de réduction de la pauvreté, qui ont été compulsées, c'est un travail fait par l'expertise sénégalaise, mais récupéré par ces institutions, McKinsey et autres, pour reformater le document, pour en faire ce que le document est aujourd'hui. Ça aussi, c'est la marque, effectivement, d'institutions qui veulent toujours avoir leur mot à dire sur le développement économique et social de nos pays. Mais les plans émergents, c'est exactement dans la même logique que le Doing Business, parce qu'au fond, les plans d'émergement, quel que soit le pays considéré, sont ce que j'appelle une stratégie d'industrialisation par la promotion des exportations. Dany Rodrigue y a travaillé. Moi-même, c'est la trame de ma thèse de doctorat. Donc, je connais parfaitement cette question de l'émergence.
Donc, ce plan Sénégal émergent n'est pas une bonne chose pour le pays?
Non, aucun document n'est mauvais, disons totalement. Il y a des aspects qu'il est nécessaire et qu'il nous faut assumer. Il y a des dérapages, ce n'est pas toujours l'extérieur qui en est responsable. C'est le pays, dans la conduite de ses propres affaires, qui a connu ce dérapage, cette politique clientéliste, les errements, je crois que la politique statique qui n'a pas permis de développer le pays. Sous beaucoup d'aspects, je suis tout à fait d'accord avec le plan Sénégal émergent, le développement de l'agriculture. Mais je souhaite simplement que, quand on développe sur l'agriculture, l'agriculture à elle seule ne peut pas se développer. Je souhaite qu'on dise l'agriculture moteur du développement, mais l'agriculture adossée à l'industrialisation. C'est ça qui, dans toutes les régions du monde, a été le moteur du développement.
Et justement, si on regarde ce secteur-là que vous connaissez particulièrement bien, est-ce qu'il y a vraiment eu, depuis une quinzaine d'années, à votre avis, une progression ou même une régression, plutôt même du secteur agro-industriel en général ou du secteur de l'agriculture au Sénégal?
Et c'est une stagnation. Ça aussi, c'est un des aspects dont les institutions internationales ne parlent pas, les gouvernements locaux n'en parlent pas. Pour le Sénégal, on n'en parle pas. Ça fait 20 ans que la valeur ajoutée du secteur de l'industrie et de l'agriculture stagne à 1,5.
Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça stagne?
Mais parce qu'il n'y a pas les politiques vigoureuses qu'il faut pour développer l'agriculture. Je crois que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de valeur ajoutée agricole.
Politique vigoureuse, vous avez entendu. Injection d'argent?
Injection d'argent, obligation de rendre compte pour ceux qui reçoivent des tonnes et des tonnes de semences qui doivent produire ces résultats. Depuis 2000 quasiment, il y a chaque année des discussions sur le retard de mise en place des semences, sur des détournements, etc., sur des bons qui ne sont pas payés aux producteurs. Mais c'est ça qui fait que
Que font les États successifs, du coup, les pouvoirs successifs, pardon, que ce soit celui d'Oued ou celui de Macky Sall, puisque ce constat est posé?
Mais les États successifs réagissent par à-coup. Je pense que ce n'est pas très bien comme solution. Je crois qu'il faut avoir des politiques, des objectifs pour véritablement aller vers le développement souhaité. On ne peut pas à chaque secousse avoir une politique. Et c'est ça qui se fait depuis donc 2000. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Le président Ouad a injecté des sommes colossales qui à la satisfaction au départ des organisations de producteurs, de leurs syndicats, etc. Mais le résultat est que cette manne financière n'est pas allée vers ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire les organisations paysannes.
En fait. Voilà. Alors, chérif Salifsi, tout ça est très intéressant. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Nous marquons une pause pour aller à la rencontre de l'actualité avec un flash et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans sa version grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury, rédacteur en chef Écho à Jeune Afrique. Nous recevons aujourd'hui l'économiste sénégalais Chérif Salif Sy. Chérif Salif Sy, au cours de la première partie, nous avons parlé de vous. Et puis pendant la pause, vous nous avez dit que vous aviez toujours refusé de travailler pour la Banque mondiale ou pour les FMI, pour les organisations financières internationales, que c'était contraire à vos principes. Nous avons aussi parlé dans cette première partie du Sénégal et de l'agriculture sénégalaise. Nous en parlions à la fin de la première partie. Est-ce que le Sénégal approche de l'autosuffisance alimentaire derrière laquelle il court, Chérif Salif Sy?
Oui, sur ce plan, il y a des efforts. Et c'est vraiment tout ce qui est mis en œuvre et tout ce qui est pris en compte n'est pas seulement projeté d'en haut. Sur cet aspect, je crois qu'il faut le reconnaître. Le gouvernement a discuté avec les gens à la base, et notamment dans la vallée du fleuve Sénégal pour la production de riz. Tout le monde connaît l'importance du riz pour le Sénégal. Et véritablement, des efforts sont faits. Mais nous continuons alors, pour une grande part de notre nourriture, de compter sur l'extérieur. Et le grand problème, c'est l'eau. Qu'il faut qu'on trouve une solution pour l'eau. Là aussi, des efforts sont faits dans la vallée du fleuve Sénégal, puisque le fleuve est à deux pas. Mais il faut également, effectivement, pour d'autres régions, ne pas compter seulement pour les eaux pluviales. Et je signale que le Sénégal a cette particularité avec Madagascar et le Japon d'avoir les plus importantes ressources en eau du sous-sol au monde. Beaucoup de gens ne le savent pas. Je crois qu'il faudrait en profiter pour véritablement arriver à l'autosuffisance. Sur un autre plan aussi, depuis 2000, avec le président Wade, il y a eu un effort véritable de diversification qui est fait. Et de plus en plus, on observe que le monde rural est en train de nourrir de plus en plus les villes. Et je crois que ça, c'est un point très positif.
Frédéric Maury.
Alors, il y a un secteur qui attire beaucoup l'attention, parce que c'est un secteur historique au Sénégal. C'est le secteur de l'arachide, qui est donc un produit d'exportation, et qui était un grand secteur agro-industriel il y a pas si longtemps. Quel bilan vous faites de l'évolution de ce secteur depuis une vingtaine d'années, et puis surtout depuis la privatisation de 2005?
J'ai été très heureux lorsque le gouvernement a manifesté une volonté de diversification du secteur de l'agriculture. J'avais écrit à l'époque, vers la fin des années 90, en disant que c'était une très bonne chose qu'on essaie de sortir du terrorisme de l'arachide. L'arachide, c'est pas seulement ce que ça produit, mais les ressources que l'arachide capte par rapport à d'autres secteurs, et encore une fois, qui passent entre des mains parfois très douteuses ou qui sont très éloignées de la production arachidière.
C'est-à-dire?
Donc, des intermédiaires qui sont souvent militants du parti dominant, à qui on donne des tonnes et des tonnes de semences, qui les vendent purement et simplement pour récupérer de l'argent.
Donc d'une certaine manière, vous vous félicitez du recul de l'arachide au Sénégal?
Absolument.
Parce que ça a permis de développer d'autres
productions.
Absolument,
ça a permis de diversifier, non seulement en termes de spéculation, mais au sein même d'une spéculation. J'ai été directeur général de l'ANCAR, où notre travail consistait à réfléchir sur l'innovation. Nous ne financions pas, nous réfléchissions sur les innovations, les bonnes pratiques, les améliorations des sols. Et l'ANCAR a beaucoup travaillé.
L'ANCAR, c'est l'Agence nationale.
L'Agence nationale de conseil agricole et rural. Et nous avons beaucoup fait pour la diversification. Vous prenez aujourd'hui le manioc, vous pouvez trouver 3 ou 4 produits dérivés du manioc. Vous prenez le mil, le maïs, etc. Ça, c'est un excellent résultat. Et ces produits sont en plus exportés dans d'autres régions du monde, notamment en Amérique du Nord.
On parle arachide, on parle production rizicole, donc on parle agriculture, matières premières. Les matières premières, leurs cours mondiaux en ce moment sont au ras du sol, les cours se sont effondrés. Est-ce que c'est une catastrophe économique pour l'Afrique dont on sait que c'est une grande génératrice de matières premières, que ce soit des minerais, du pétrole ou des ressources agricoles?
Ça pourrait être perçu comme une catastrophe, déjà. Quand on apprend que depuis la baisse des cours de cette matière première, le commerce avec la Chine a baissé de près de 40% sur le continent. Ça, c'est un véritable séisme. Je crois que dans le secteur pétrolier également, vous regardez des pays comme le Nigeria, comme l'Angola, qui ne tiennent plus, n'ayant plus d'acheteurs, en tout cas à bon prix de leur production, et ils se retrouvent avec des contraintes budgétaires énormes pour financer d'autres aspects comme l'école, la recherche, la santé, etc. C'est un véritable problème, cette baisse des coûts des matières premières. Et ça se combine toujours avec des problèmes dont on n'en sort pas, la mauvaise gestion par-ci, par-là. Vous combinez tout cela, ça donne effectivement ce que le FMI vient de dire dans son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique. Il n'y a plus de ventes à bon prix, donc il n'y a plus de financement extérieur avec la crise des pays du Nord, avec la crise budgétaire, devient de plus en plus difficile. Certaines mauvaises gestions, évidemment, vous combinez tout cela, même si au même moment, le taux de croissance en Afrique est plus élevé que les autres régions du monde, c'est un véritable problème, cette baisse des matières premières.
Mais justement, il y a un paradoxe, vous parlez de ce taux de croissance qui reste finalement, certes qui baisse, mais qui reste quand même relativement soutenu, ce taux de croissance des pays d'Afrique subsaharienne, alors que les cours des matières premières se sont effondrés. Et ce qui se dégage finalement, c'est que le vrai, vrai souci, c'est les ressources budgétaires des États africains. On a l'impression que les économies se sont diversifiées, mais que les États africains, eux, ils restent encore dépendants à 50% et parfois beaucoup plus de ces ressources minières, pétrolières. Bon, comment vous expliquez que les États africains n'aient pas pu diversifier davantage leur base de ressources fiscales?
Oui, ça c'est un problème soulevé par les anciens. Hier, j'ai écouté encore une vidéo du président Houphouët-Boigny qui le disait. C'est ça, la contradiction quand même extraordinaire. On peut avoir un taux de croissance qui monte, hein. Le taux de croissance, c'est tout ce qui est produit localement. Sa valeur par rapport à d'autres années ou à l'année d'avant, il peut monter. Mais en ce moment, on peut avoir des revenus extérieurs qui sont moindres. Ce n'est pas une contradiction parce que depuis quand même 4-5 ans, l'Afrique est dans une poussée de croissance, particulièrement dans les pays producteurs de matières premières. Mais le taux de croissance, effectivement, qui est fort dans certaines régions d'Afrique, n'est pas porté par des secteurs qui créent l'emploi. Et ça, c'est le grand paradoxe des pays africains. Tant que la croissance n'est pas portée par des secteurs qui créent de l'emploi, on a ce que j'appelle la croissance appauvrissante. Parce que l'emploi, c'est la ressource dont on dispose de plus. Et si vous regardez les pays du Nord, c'est là où le concept de croissance appauvrissante est intéressant. La ressource la plus importante dont ces pays disposent, c'est le capital. Le capital, fortement, en tout cas très bien injecté dans l'économie, peut produire des taux de croissance relativement faibles qui se traduisent par une amélioration constante du condition de vie des populations. C'est ça le problème. Il faut que nous cessions d'être éblouis par des taux de croissance très très élevés. Parce qu'on constate dans les faits que plus ils sont élevés, plus la pauvreté augmente. Et ça, c'est une préoccupation.
Alors, l'Afrique, elle cherche la croissance un peu partout, en Chine, avec les exportations de matières premières, mais aussi en Inde. À la fin octobre, il y a eu une grande réunion à New Delhi, un sommet Afrique-Inde, comme il y en a eu déjà plusieurs par le passé. Écoutez ce reportage sur place de notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcy.
Philippe Pango est un initié des affaires avec les Indiens. Ce directeur de la zone franche Vitib, spécialisé dans les nouvelles technologies et situé près d'Abidjan, a commencé à travailler avec différentes entreprises indiennes dès la création de ce parc industriel en 2008, et ce, dans plusieurs domaines.
Nous avons fait appel à l'Inde pour les infrastructures, le financement, le management général d'un parc technologique. Vous savez, l'Inde regorge de parcs technologiques.
Cet Ivoirien aimerait pouvoir s'inspirer du modèle indien de croissance dans les nouvelles technologies afin de le répliquer dans son pays.
Quand je parle avec des Indiens, c'est ce que je leur demande. Je dis, mais comment ça a commencé? Alors, ils vous disent, ah, mais c'est le bug de l'an 2000. Alors, on se dit, mais ça fait donc 15 ans véritablement que le boom IT s'est réalisé ici en Inde. Et donc, on se met à rêver. On se dit, mais donc, dans 15 ans, on peut faire ça.
Les Occidentaux se plaignent souvent de la bureaucratie indienne compliquée qui rend le commerce pénible avec eux, mais cela n'effraie pas Philippe Pango.
Si vous voulez parler de lourdeur administrative, nous on est des experts là-dedans. Hein. Donc non, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être ça aussi la promiscuité culturelle. Si on doit attendre longtemps avant d'avoir un rendez-vous, on comprend, on a la même patience que.
Monsieur Pango va chercher pendant les deux prochains jours de ce sommet de nouveaux partenaires indiens pour étendre ce parc industriel.
Chérif Salif, c'est une bonne idée d'aller chercher la coopération économique avec l'Inde?
Ah, je crois que c'est une excellente chose dans ce processus global que j'appellerais la maîtrise des conditions de l'accumulation. J'ai dit qu'aucun pays ne peut réunir à lui tout seul les ressources qui lui sont nécessaires. Donc, dans ces conditions de maîtrise des conditions de l'accumulation, la diversification des partenaires est un aspect très important. Je crois que l'Afrique n'a que trop tardé à le faire. Donc, qu'on revienne à un partenariat de ce type avec l'Inde, la Chine, le Brésil, je crois que c'est en train même de changer la donne. Ça permet d'avoir des ressources venant d'autres horizons et ne plus compter sur les partenaires traditionnels qui ont beaucoup fait et qui, à mon avis, continuent à beaucoup faire. Le problème, c'est simplement que il faut sortir de ces histoires de modèles. Moi, je pense que les modèles sont mortels. Ce qu'il faut, c'est davantage mettre en évidence les spécificités existantes dans chaque pays lorsqu'on emprunte ou lorsqu'on bénéficie de ressources de ce type. Les mettre là où il faut. Éviter encore une fois que ces montants soient détournés par des entrepreneurs ou pseudo-industriels à la botte des pouvoirs politiques. On emprunte. Mon autre inquiétude maintenant, donc il y a des raisons d'espérer, comme je viens de le montrer, mon autre inquiétude, c'est que l'ensemble du continent est sur la voie de reconstituer le stock de la dette. C'est une préoccupation extrêmement importante pour moi, surtout si on reconstitue le stock de la dette intérieure. Parce que si la dette intérieure augmente, comme elle l'a fait la décennie passée, les entreprises locales ne fonctionneront pas. La situation de l'emploi va être encore plus grave. Oui, c'est une bonne chose, mais il faut être responsable dans l'orientation de ce partenariat et des ressources que nous tirerons de ce partenariat.
Alors, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Chérif Salif, si vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Et je passe la parole à Frédéric Maury pour une nouvelle question.
Alors, vous parlez de reconstitution du stock de la dette, c'est-à-dire en fait une augmentation de la dette à laquelle on assiste depuis 2008-2009, on peut dire. Hein. Oui. Grosso modo, la dette africaine repart à la hausse. Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle crise de la dette africaine est possible ou est-ce qu'on en prend le chemin?
Elle est tout à fait possible. Je suis pas le seul à le penser. Stiglitz a écrit un texte très intéressant sur la question.
Joseph Stiglitz
a écrit il y a 2 ans déjà pour attirer l'attention des gouvernements africains. Mais je crois que tant qu'il n'y a pas d'effort, du contrôle, du surplus provenant des ressources minières et de la vente d'autres matières premières, si tout, comme par le passé, continue à aller à l'extérieur, il va être difficile de créer des emplois, il va être difficile de répondre de façon convenable aux objectifs sociaux, et à ce moment-là, on va continuer à emprunter.
Vous voulez dire qu'il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas captées par les États,
absolument,
hein, et qui partent à l'extérieur, c'est ça ?
Absolument, il y a des fuites de ressources qui sont extrêmement graves, une saignée, une véritable saignée qui continue, particulièrement dans le secteur minier. Heureusement, aujourd'hui, tous les États, les gouvernements en ont conscience et les codes miniers partout sont en train d'être revus. Parce que ça aussi, c'est des revenus quand même qui permettent d'emprunter moins à l'extérieur si on arrive à en tirer profit convenablement.
Et quand vous voyez justement les émissions d'Eurobond, c'est-à-dire c'est des émissions obligataires internationales, l'Angola vient d'en faire un justement de 1,5 milliard de dollars, le Sénégal en avait fait aussi des Eurobonds. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne tendance ou que c'est une tendance dangereuse pour des États africains?
C'est une nouveauté. Les premiers pays à le faire, c'était le Rwanda et le Sénégal. Ça se fait de plus en plus. C'est une bonne chose. Moi, je crois que c'est une bonne chose tant que c'est maîtrisé. Tant que c'est maîtrisé, tant que ça ne débouche pas sur une crise financière, une crise monétaire pour d'autres pays, je pense que ça peut être une bonne chose, mais simplement, il faut, dans ce genre d'opération, savoir raison garder. Le Sénégal le fait depuis 2009. J'ai vu un document sur le Fonds monétaire s'inquiéter sur les emprunts depuis 2-3 ans. Le Fonds dit que c'est le rythme d'augmentation de ces emprunts est plus élevé que pour les 12 années précédentes. Je crois que c'est une situation préoccupante tout de même.
Cher Salif, si à vous entendre, on n'a pas l'impression que vous parieriez grand-chose sur l'émergence des États africains. Il y a un livre qui paraît en ce moment à Paris, signé de Serge Mikhaïlov, qui est intitulé « Afrikanistan », qui explique que les violences, les situations politiques violentes en Afrique, essentiellement francophone, sont comme un cancer qui métastase et que ça gêne le développement du continent. Vous, est-ce que vous pensez que l'Afrique est un continent, une région qui est en voie d'émergence?
Je ne le pense pas, sincèrement, parce que là aussi, j'ai dit que on dit beaucoup de choses sur l'Afrique, l'avenir du monde. Des documents français même disent que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. On entend dire que le 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. Oui, le 21e siècle peut être le siècle de l'Afrique pour une Afrique qui se ressaisisse pour maîtriser son destin. Quant à l'émergence, j'ai dit qu'effectivement, on avance ces assertions, mais on ne tient pas compte de ce qui fait véritablement le développement économique et social, en d'autres termes, l'industrialisation, par une révolution agricole qui donne une révolution industrielle. Ces indicateurs, je vais vous les dire, dans tous les pays émergents, le taux d'épargne et le taux d'investissement tournent autour de 35%. En Afrique, nous sommes pour le taux d'épargne entre 7 et 9%. Pour le taux d'investissement, rares sont les pays qui dépassent 23%. Je crois que c'est extrêmement grave. Un autre fait beaucoup plus grave...
Sur ce point-là, vous avez dit justement déjà dans une précédente interview, et vous y revenez, que finalement, on regardait trop le taux de croissance et pas assez le taux d'épargne. Est-ce que
Absolument.
Vous pouvez expliquer un petit peu plus
Absolument.
Vous pensez que c'est surtout le taux d'épargne qu'on devrait regarder?
Le taux de croissance s'impose pour tous les pays du monde aujourd'hui comme une variable incontournable. Et ça change les relations internationales qui affectent l'activité de chaque pays. Mais au fond, en véhiculant cette histoire de taux de croissance, on nous installe tout simplement dans une nouvelle division du travail qui ne tient pas compte du potentiel des pays. Mais je termine sur ce que Jean-Pierre disait en disant qu'un autre aspect qui me fait dire que nous ne sommes pas véritablement sur la voie de l'émergence, c'est que dans tous les pays émergents, 75% au moins de l'énergie commerciale distribuée va dans le secteur productif. En Afrique, la moyenne, c'est 5%.
De quoi? De l'énergie?
De l'énergie commerciale distribuée. L'électricité. Uh-huh. L'énergie. Je crois que ça aussi, c'est des indicateurs dont il faut parler, qu'il faut prendre en compte pour voir véritablement si nous sommes sur la voie de l'émergence. On peut prendre d'autres indicateurs. On nous pousse, c'est les institutions ne parlent que des droits civils et politiques. Ça aussi, c'est un problème. Il y a quelque chose qu'on veut cacher en mettant en avant de cette façon les élections, la démocratie, en oubliant l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels. C'est ça qui fera la base.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Le droit d'aller à l'école, le droit d'avoir du travail, le droit de se syndiquer, le droit de produire, tout ça, on n'en parle pas. Toutes les batailles sur le continent sont des batailles politiques.
Mais il y a eu des progrès
qui
sur
va
la
aller au Parlement, qui va être député.
Il y a eu des progrès sur la scolarisation quand même en Afrique.
Qui est-ce qu'on va faire tomber? Il y a eu des progrès, effectivement, si on ne parle pas du recul avec l'urbanisation. Par exemple, dans certains pays africains, dont le Sénégal, on ne parle jamais des abandons pendant l'année scolaire parce qu'on ne peut pas se nourrir convenablement dans la journée. On ne peut pas user des transports pour aller le matin et l'après-midi à l'école. Au Sénégal, c'est estimé à 200 000 abandons d'enfants par an. Je crois que c'est extrêmement grave. C'est beaucoup plus fort dans d'autres pays africains. Tout ça, il faut l'intégrer pour qu'on puisse parler de progrès de la scolarisation. On ne parle pas également de l'illettrisme qui se développe. Lorsque vous êtes à l'école, vous sortez 9 ans après, vous ne trouvez pas de travail, les gens s'installent, ils perdent les mots, ils perdent les concepts. Ils en arrivent même à ne plus manipuler convenablement la langue locale pour se réinsérer convenablement. Ça, c'est des aspects que je crois qu'il faut que surtout les organisations de la société civile parlent. Mais les organisations de la société civile, elles aussi, pour l'essentiel, ne parlent que des questions politiques.
Alors, à la liste des mots que vous venez de faire, Chérif Salifsi, il y en a peut-être un autre qu'il faut ajouter, c'est l'émigration. Il y a beaucoup de subsahariens, d'habitants d'Afrique du Sud, du Sahara, qui partent, en particulier vers l'Europe. Pourtant, selon une étude très récente faite par l'OCDE et par l'AFD, l'Agence française de développement, des migrants subsahariens en Europe, il n'y en a pas tant que cela. On est Couperin d'Aiglepierre, économiste à l'AFD, l'un des auteurs de cette étude, dénoncer quelques idées fausses très répandues.
Sur la migration subsaharienne, une première, c'est l'augmentation massive dans le temps et elle est surtout à destination des pays riches. Et ça, c'est clairement pas le cas. En fait, on se rend compte que seulement 5% de la migration des migrants dans les pays de l'OCDE viennent d'Afrique subsaharienne, donc c'est un chiffre extrêmement faible. Ça a augmenté, mais pas tant que ça dans le temps.
Par exemple, en France, il y a beaucoup d'immigrés subsahariens ?
Non, c'est 1,6% de gens en France qui sont nés en Afrique subsaharienne, donc certains sont français. Donc finalement, non, c'est des chiffres qui sont assez faibles, notamment par rapport à beaucoup d'autres régions. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a la question du genre. En fait, maintenant, on est quasi à parité. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui sont migrants subsahariens dans les pays de l'OCDE. La question de la qualification est extrêmement importante. Un migrant sur trois est diplômé du supérieur dans les pays de l'OCDE. Donc il y a vraiment un certain nombre d'éléments, effectivement, à vraiment prendre en compte pour parler migration.
Par exemple, les médecins.
On a parlé des médecins, on a parlé des enseignants, donc effectivement, il y a beaucoup d'enseignants et de médecins en fait qui migrent et qui s'installent dans des pays de l'OCDE, et donc les pays de l'OCDE profitent de ces gens-là, alors qu'on est dans des pays d'Afrique subsaharienne qui sont très très en retard au niveau santé et éducation.
Beaucoup de médecins pour africains dans les pays de l'OCDE, c'est un drame, Chérif Salifsi.
Ah, c'est plus qu'un drame, particulièrement pour les pays de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est. Je crois qu'il y a, selon certaines données, plus de 3000 médecins qui s'en vont tous les ans. Mais moi-même, j'ai relu hier un des derniers rapports de l'OCDE qui montrait que 13% de personnes hautement qualifiées, c'est-à-dire qui sont passées par l'université, se retrouvent dans les pays développés, notamment dans l'Union européenne. C'est un grand souci. Eux-mêmes ont employé l'expression retour de la fuite des cerveaux, parce qu'il ne faut pas qu'on le perde de vue. Parmi les migrants qui s'en vont, il y en a qui n'ont pas de travail. Mais moi, j'en vois tous les jours, hein, des amis, des neveux qui sont médecins.
Des fils ?
Ah oui, des fils qui sont médecins, qui sont universitaires, qui sont banquiers même. Qui sont banquiers même, prendre ces bateaux pour venir dans le pays et développer. Cela veut dire que le problème n'est pas seulement économique. Parfois, et c'est ça un des problèmes de l'Afrique. Déjà, si vous voyez, tous les conflits sur le continent opposent des gens du même pays. Ça veut dire, en fait, que certains considèrent ne pas appartenir au même pays. Je crois que c'est extrêmement grave. Il y a un malaise qui n'est pas seulement économique. Je crois que c'est ça. Vous êtes opérateur économique, dès que vous êtes visible, le fisc tape sur vous. Dans certains pays, c'est le parti au pouvoir qui vous demande purement et simplement de financer ses meetings. Je crois que c'est ça. Il y a des perspectives de carrière. Tout ça n'existe pas de la même façon prometteuse dans tous les pays. Tout ça fait que les gens s'en vont. Et je souhaite simplement qu'on retienne que ce ne sont pas, les gens ne partent pas seulement pour chercher du travail. Ils partent parce que l'ambiance générale ne permet pas de s'épanouir comme ils le souhaiteraient.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on l'exagère un peu, cette migration subsaharienne, dans les médias européens? Ou est-ce que vous pensez quand même que c'est un phénomène vraiment très, très important?
Non, je pense que c'est un phénomène très sérieux. J'ai même été choqué par la façon dont le phénomène a été marginalisé, oublié, avec l'arrivée des Syriens. Et évidemment, j'ai regardé de très près cette arrivée des Syriens ou de personnes venant de cette région. La part de personnes qualifiées est peut-être 7 à 10 fois plus élevée que la part des Africains qui viennent. des médecins extrêmement qualifiés, qui n'ont pas seulement un diplôme, mais une expérience avérée dans le travail, des ingénieurs dans des domaines pointus. Je crois que c'est une manne lorsque vous n'avez investi sur les gens ni en allocation familiale, ni en allocation postnatale ou prénatale. C'est des économies extrêmement importantes que les pays européens en tirent. Et je crois que j'ai pu comprendre à un moment donné qu'on privilégie ce type de migrants. Mais je crois que pour des raisons d'éthique, pour des raisons aussi liées à l'histoire, on ne peut pas oublier 3000 jeunes enfants, jeunes Africains qui périssent dans la Méditerranée.
Alors vous en parliez tout à l'heure des liens entre la France et l'Afrique. Vous disiez que maintenant il y a aussi un mouvement disant que l'avenir de la France est en Afrique. Et un des moyens, il y a eu un forum récemment sur ce sujet, c'est la francophonie, ce qu'on appelle la francophonie économique. Est-ce que vous pensez que ça a un vrai sens de créer une zone économique francophone qui réunirait la France, le Canada, les pays subsahariens, les pays du Maghreb?
Je pense que la francophonie économique, je crois que c'est une aberration. Ça n'a pas de raison d'être. Les entreprises françaises, à partir de corporations très anciennes, très fortes, très solides, sont déjà sur le continent. Et le monde est ouvert. Je crois qu'il faut ça. Il y a plus de précaré. Je crois qu'il faut que les Français s'organisent autrement et travaillent.
Et pour vous, la francophonie économique, c'est une manière de maintenir un précaré?
Je crois, mais c'est
la dernière question.
C'est perdu d'avance. Ce n'est pas possible. Je crois que ce n'est pas possible. Le monde est en train de changer. Et malheureusement, c'est ça aussi, les pays où il existe une aristocratie. Et c'est ça aussi, pareil, qui fait la force des États-Unis. C'est le seul pays au monde, il me semble, qui n'a pas d'aristocratie. Tout le monde peut s'y réaliser. Le regard sur le monde est différent. Et la France reste ancrée dans des considérations très paternalistes. La France politique, je veux dire, hein, je crois qu'il faut changer cela. Et malheureusement, il y a aussi une génération d'hommes politiques, après Mitterrand, qui méconnaissent totalement l'Afrique, qui ne veulent même pas la connaître.
On en parlera peut-être dans une prochaine émission, chéri Salissi. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Merci, chéri Salissi, d'avoir accepté d'être le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Cette émission est mise en ligne sur les sites internet de nos deux médias, RFI Jeune Afrique. Arès Siradag a réalisé cette émission. À la semaine prochaine.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.